France Culture.
Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Mathéo, bonsoir à tous. Volodymyr Zelensky renonce à supprimer l'indépendance des agences anticorruption ukrainiennes. Après 2 jours de critiques, le président ukrainien annonce un nouveau texte soumis dès aujourd'hui à son Parlement. Des résultats bien modestes pour le sommet entre l'Union européenne et la Chine à Pékin. Parmi les quelques avancées, un mécanisme amélioré pour les exportations chinoises de terres rares. Le parquet de Bordeaux rouvre une enquête sur le suicide de l'ancienne épouse de Bertrand Cantat. Il s'agit de savoir si le chanteur a exercé des violences sur Christina Radi, 7 ans après le meurtre de Marie Trintignant. Le gouvernement veut augmenter les recettes liées au tourisme en France. Objectif 100 milliards d'euros en 2030 contre 71 milliards l'an dernier. Il y a 2 jours, il promulguait une loi supprimant l'indépendance de 2 organismes anti-corruption en Ukraine. Ce soir, il fait marche arrière. Volodymyr Zelensky annonce qu'il va proposer un nouveau texte qui garantit cette indépendance des 2 agences. Le président ukrainien, littéralement pris au dépourvu par l'avalanche de critiques contre le premier texte, avec des manifestations inédites dans une Ukraine bombardée chaque jour par l'envahisseur russe. Virginie Pironon, la nouvelle loi arrive dès aujourd'hui au Parlement à Kiev.
Un second texte soumis aussi rapidement que le premier. Ces 2 derniers jours, l'administration présidentielle ukrainienne a dû passer en mode gestion de crise. Pour la politologue Anna Colin-Lebedev, spécialiste des sociétés post-soviétiques, ce recul est le résultat direct des manifestations de ces 2 derniers jours.
Nous allons voir la nature du texte qui sera proposé par le président Zelensky, mais il est clair qu'il s'agit d'une réaction en fait à la protestation de la société contre le premier projet de loi. Donc en tout cas, le président Zelensky prend très clairement conscience qu'il y a besoin d'une réaction de sa part.
Critique de la population, de l'Union européenne, mais aussi des services de renseignements ukrainiens qui ont dit craindre, en temps de guerre, une instrumentalisation par la Russie des manifestations.
C'est à la fois complètement crédible et en même temps, disent aujourd'hui les Ukrainiens, eh bien ça ne doit pas arrêter et freiner la société dans sa volonté de formuler des critiques, proposer des réformes, améliorer ce qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, les Ukrainiens disent, dans cette guerre, il y a une gestion politique et avec ces gestions politiques, on peut être en désaccord et on doit être en désaccord.
Pour la chercheuse, cet épisode montre une forme de retour de la politique dans un pays où loi martiale oblige, il ne peut y avoir de nouvelles élections. La preuve, selon elle, au final, d'un fonctionnement plutôt sain de la démocratie en Ukraine.
Virginie Pironon, merci. L'Union européenne salue ce soir la volonté de Volodymyr Zelensky de proposer cette nouvelle loi. Elle avait exprimé mardi sa préoccupation face au premier texte. L'UE qui fête cette année le 50e anniversaire de ses relations avec la Chine. Les responsables européens sont à Pékin aujourd'hui pour un sommet consacré notamment aux échanges commerciaux après 18 mois de fortes tensions. On retrouve à Bruxelles, Pierre Benazé, bonsoir.
Bonsoir.
Pierre, ce sommet a débouché sur quelques avancées qui restent malgré tout bien timides.
Oui, le seul résultat tangible de ce 25e sommet entre la Chine et l'Union européenne, c'est une déclaration commune sur le climat par laquelle les deux parties s'engagent à maintenir l'application de l'accord de Paris 10 ans après et à renforcer leur coordination. À l'heure où le retrait des États-Unis de l'accord menace les efforts contre le changement climatique, l'ombre de Donald Trump a aussi pesé sur les sujets les plus compliqués de ce sommet, à savoir les relations commerciales. Le président chinois demande aux Européens, je cite, de faire les bons choix stratégiques, de ne pas construire de murs, référence explicite aux différends commerciaux qui a vu l'UE imposer des surtaxes aux voitures électriques et la Chine répliquer par des surtaxes sur le cognac. Mais les Européens lui opposent presque une fin de non-recevoir ce jeudi puisqu'ils affirment en quelque sorte que la proximité de Pékin avec le Kremlin est trop grande et que la Chine va devoir choisir entre la Russie et l'UE. De la même manière, le président du Conseil européen, Antonio Costa, s'inquiète du respect des droits de l'homme par la Chine. Bref, rien qui soit véritablement propice à une détente.
Pierre Benazé en direct de Bruxelles. Y a-t-il un espoir de trêve à Gaza dans les prochains jours? Israël a décidé de rappeler pour consultation son équipe de négociateurs au Qatar. Le Hamas affirme avoir répondu à la proposition de cesser le feu de 60 jours dans l'enclave palestinienne. C'est donc cette réponse dont on ne connaît pas le détail que le gouvernement israélien va examiner. L'État hébreu sous pression internationale pour mettre fin au blocus de Gaza alors que la famine se propage dans le territoire selon les ONG. 22 ans après le meurtre de sa compagne Marie Trintignant, Bertrand Cantat est visé par une nouvelle enquête. Enquête pour violence volontaire sur conjoint, concernant cette fois le décès de Christina Radi, la première femme du chanteur de Noir Désir. Elle s'était suicidée en 2010 alors qu'il était revenu vivre chez elle à sa sortie de prison. Margot Steve, la justice cherche à savoir si Bertrand Cantat a une responsabilité dans cette mort.
Oui, savoir plus précisément si le chanteur a exercé des violences sur Christina Radi et si cela peut avoir un lien avec son suicide. À l'époque, le chanteur de Noir Désir est sorti de prison où il a purgé sa peine après la mort de Marie Trintignant. Il revient s'installer chez son ex-femme, Christina Radi, avec leurs deux enfants. 3 ans plus tard, elle est retrouvée morte à leur domicile. Les investigations concluent dès le lendemain à un suicide par pendaison. Entre 2013 et 2018, 3 nouvelles enquêtes seront ouvertes, notamment après les plaintes d'une avocate féministe. Elle estime que la mort de Christina Radi est directement liée aux violences exercées sur elle par Bertrand Cantat. Toutes ces enquêtes seront classées sans suite, mais aujourd'hui donc, le parquet de Bordeaux estime qu'il faut relancer à nouveau les investigations, au regard notamment de nouveaux témoignages recueillis dans un documentaire diffusé fin mars sur Netflix. Une nouvelle enquête qui devra aussi identifier d'autres victimes éventuelles de Bertrand Cantat.
Explication signée Margot Steve. Justice pour Inas. Inas, on ne t'oublie pas, plusieurs personnes soutenues par l'association Mouv' Enfants ont déployé des banderoles aujourd'hui devant le palais de justice de Blois. Inas Touloub, une petite fille de 4 ans retrouvée morte en août 1987 le long de l'autoroute à Suèvre dans le Loir-et-Cher. On l'appelait l'inconnue de l'A10 jusqu'à ce que l'enquête aboutisse il y a 7 ans à l'interpellation de ses parents. La manifestation d'aujourd'hui visait à réclamer l'organisation rapide d'un procès 38 ans après les faits. Florence Turme.
Longtemps, la petite Inas est restée un visage sans nom depuis le jour où l'on découvre son corps martyrisé dans un fossé au bord de l'autoroute A10. Pendant des années, les enquêteurs vont tenter de découvrir son identité, sans succès, malgré les nombreux appels à témoins. Les pistes s'épuisent, un non-lieu est même prononcé en 91, mais des prélèvements ADN effectués sur l'enfant vont finalement en recouper d'autres, presque par hasard, lorsque le frère de la petite fille est arrêté dans une autre affaire, 31 ans plus tard. Nous sommes en 2018, les parents d'Inas interpellés, l'enfant a subi de nombreuses maltraitances, morsures, fractures, brûlures, détaillent les experts, et c'est le début d'une longue bataille judiciaire sur les qualifications avant que le juge d'instruction de Blois ne décide du renvoi aux assises. La mère d'Inas doit y être jugée pour torture et actes de barbarie ayant entraîné la mort, le père pour complicité. Tous deux sont aujourd'hui sous contrôle judiciaire, âgés de plus de 70 ans, en mauvaise santé, et le procès peine à voir le jour. Manque de moyens au palais de justice de Blois, fait-on valoir dans un premier temps. La cour d'appel d'Orléans réclame le dépaysement de l'affaire, requête rejetée par la cour de cassation. Retour à Blois, donc, avec une demande adressée au ministère de la Justice pour obtenir le label procès sensible qui lui allouerait des moyens supplémentaires. 3 semaines d'audience envisagées, un fort retentissement médiatique qui impliquerait de trouver un autre site que le tribunal. Le principe de labellisation semble acquis, mais les modalités encore à l'étude, indique la chancellerie, et toujours aucune date de procès à communiquer à ce jour.
Florence Turme, spécialiste des questions de justice à France Culture. Nous, restaurateurs, nous faisons ce métier pour nourrir, pas pour empoisonner. Voilà le titre d'une tribune publiée ce matin par le journal Le Monde. Près de 400 acteurs de la restauration dénonce la loi Duplomb, ce texte qui réintroduit l'acétamipride, un pesticide pour l'instant interdit en France. Il y a 10 jours, c'est le chef triplement étoilé Jacques Marcon qui avait lancé un appel contre la loi Duplomb. Parmi les signataires de cette tribune, des grands chefs, mais aussi des entreprises de restauration collective. Caroline Félix, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Vous avez contacté quelques-uns des signataires.
Et oui, parmi eux, Cyril Rouget, il est chef cuisinier pour un groupe de restauration collective à Grenoble et il fait très attention à ces produits. Alors il s'inquiète de la loi Duplomb et du volet sur les pesticides et sur les élevages intensifs.
Je nourris des gens tous les jours, c'est quand même un acte d'amour. Je ne peux pas me dire tu nourris pour potentiellement rendre malade les gens. Voilà, ça nous met dans une situation où on nous demande de participer à quelque chose qui pour moi est contre nature.
Et en signant, il espère que son employeur, Elior, qui distribue 850 000 repas par jour, fera encore plus d'efforts sur le bio. Autre signataire, Julie Guesmia, responsable des achats pour le réseau de brasseries Nouvelle Garde de la restauration durable. Et elle redoute, entre autres, que les produits sans pesticides deviennent plus rares, donc plus chers.
Si de nombreux producteurs se mettent à utiliser ce pesticide, enfin, c'est un peu la loi de l'offre et la demande. Du coup, les produits sans pesticides risquent d'augmenter. Et de fait, nous aussi, on va subir cette hausse.
Et par exemple, pour les Paris-Brest, elle achète 5 tonnes de noisettes par an, une culture qui pourra être traitée à l'acétamipride. Mais la tribune va plus loin que la loi du plomb. Elle demande un moratoire sur tous les pesticides. C'est Fanny Gianceto, professeure de droit, qui est à l'initiative du texte. Elle accompagne aussi les restaurateurs dans leur transition écologique.
L'enjeu, il est en fait plus large. Il est celui de la transition de notre système alimentaire vers un modèle plus vertueux. En plus, on sait que c'est possible, c'est-à-dire que l'organisation de l'ONU en matière d'agriculture et d'alimentation l'a dit à de nombreuses reprises, on peut nourrir l'intégralité des êtres humains avec de l'agroécologie.
Et l'une des solutions, d'après elle, c'est de restreindre le libre-échange dans le domaine de l'agriculture.
Merci Caroline Félix. La gastronomie, c'est l'un des atouts qui font de la France la première destination touristique mondiale. 100 millions de visiteurs étrangers accueillis l'an dernier. L'année des JO de Paris. Mais le gouvernement vise plus haut pour un secteur qui pèse lourd dans l'économie française, 8% du PIB, 2 millions d'emplois directs et indirects et plus de 71 milliards d'euros de recettes internationales. L'objectif en 2030, 100 milliards d'euros de recettes. 2030, nouvelle année olympique pour la France avec les JO d'hiver dans les Alpes. François Bayrou est à Angers cet après-midi pour dévoiler la nouvelle feuille de route touristique de son gouvernement. Marion Ferrer, le Premier ministre qui espère bien capitaliser sur le succès de Paris 2024.
L'idée, jouer les prolongations avec des campagnes publicitaires mais aussi des parcours touristiques autour de Paris 2024. La vasque olympique a d'ailleurs repris sa place cet été dans le jardin des Tuileries pour le plus grand bonheur de cette touriste turque, ravie de la voir en vrai.
C'est vraiment cool, tout est cool pour les photos, les perspectives. Je regardais les bâtiments, les détails. Oh mon Dieu, c'est super beau.
Paris 2024 qui a aussi inspiré d'autres envies de sorties culturelles.
Le Louvre, Versailles, oui.
Et ça a permis de découvrir Paris autrement. Non, franchement, c'est très bien que ça continue un petit peu.
C'est top, je pense que tout le monde a apprécié. Comme il était dit, les Français ont râlé au début et finalement, ça a fédéré tout le monde.
Une tendance confirmée par les professionnels du secteur, mais pour Franck Delvaux, président de l'UMI Île-de-France, l'enjeu est désormais de faire dépenser davantage à ces touristes et de soutenir la restauration française en déclin.
Autant l'hôtellerie fonctionne bien, c'est beaucoup moins vrai dans la restauration traditionnelle qui souffre. Il faut arrêter ce développement de fast-food et de street-food sur notre territoire. On ne peut pas être le terrain de jeu des grands groupes de fast-food et de street-food américains qui viennent à Paris en disant on va ouvrir 300, 400, 500 établissements. C'est pas comme ça qu'on va laisser les touristes rester plus longtemps, dépenser plus.
Autre piste, la baisse des charges. Selon l'UMI, 23 restaurants ferment chaque jour.
Reportage signé Marion Ferrer. C'est le rendez-vous estival des meilleurs pianistes du monde entier, le Festival international de piano de la Roque d'Anthéron dans les Bouches-du-Rhône qui souffle cette année sa 45e bougie. Jusqu'au 17 août, on peut y entendre les plus grandes œuvres du répertoire. Mais le festival réserve aussi une place à la création contemporaine. Illustration ce soir avec la première française d'Exil, une œuvre signée Bernard Faucroule. C'est un reportage de Louis-Valentin Lopez.
La complainte sourde et lancinante de 5 viols de gambe. Cette pièce Exil, Bernard Faucroule l'a composée il y a 6 ans, mais elle trouve en 2025 un écho renouvelé.
Avec ces guerres, ces bombardements, ces populations civiles terrorisées, assoiffées, notamment à Gaza, mais pas que, cela résonne de manière encore plus forte aujourd'hui.
Une création contemporaine qui a toute sa place à la Roque d'Anthéron, aux côtés des grandes œuvres du répertoire.
Je pense vraiment qu'aujourd'hui, le risque de ne se focaliser plus que sur le répertoire du passé est un risque majeur, c'est un risque qui va avec la société de consommation. Tout au contraire, nous avons besoin d'alimenter en permanence un dialogue entre des œuvres d'aujourd'hui et des œuvres du passé.
Prolonger la vie des créations contemporaines, c'est ce qu'essaie de faire depuis quelques années René Martin, le fondateur et directeur artistique du Festival de la Roque d'Anthéron.
J'écoute la création et ensuite j'aide à ce que cette œuvre vive une deuxième, une troisième, une quatrième fois.
À travers notamment le projet Passé au présent, dont l'objectif est de mettre en lumière à la Roque les compositeurs vivants de musique contemporaine, d'autant qu'il traverse une période délicate.
Avec des coupes de subventions, avec des nouveaux modèles qui s'installent.
Vous entendez par nouveaux modèles ?
Est-ce qu'il faut aider une œuvre qui attire très peu de public, par exemple ? Ou alors est-ce qu'il faut aider plutôt les grands rassemblements ? Et la musique du XXe siècle, enfin la musique contemporaine, doit plus que jamais exister.
Et la composition de Bernard Faucroul trouvera un écho sans doute encore plus particulier ce jeudi soir dans le cloître de l'abbaye de Silvacane, à la Roque d'Anthéron.
Louis Valentin Lopez, exil de Bernard Faucroul par le Ricercar Consort. C'est donc un concert qui débute dans un petit quart d'heure à 18h30 à la Roque d'Anthéron. Un mot du temps demain, toujours des averses orageuses des Pyrénées au nord-est. Ailleurs, les éclaircies gagnent du terrain au fil de la journée. Le soleil dominera sur les régions méditerranéennes. Demain matin, il fera entre 10 et 20 degrés du nord au sud. Les températures maximales sont en légère hausse de 21 à 31 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Beneteau. À la technique, il y avait Florent Bujon.